Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue à Peut contenir des infos. Hey, je suis, tu sais, comme enthousiaste. Hein? Bienvenue à Peut contenir des infos. Salut Sébastien, comment ça va?
Salut Simon, vraiment bien pour une deuxième là. J'ai eu beaucoup de plaisir à la première qu'on a enregistrée la semaine dernière et puis on a jasé de plusieurs choses. J'étais content. Ça rentrait dans des sujets qui me passionnaient de toute façon. Puis là, je pense qu'on remet ça aujourd'hui.
Oui, c'était bon l'hypnose entre autres choses là. On a appris bien des affaires. Je veux saluer juste avant de nous lancer dans nos sujets puis de saluer évidemment les gens qui sont là pour nous écouter d'une semaine à l'autre. Elle peut contenir des infos. Il y a une auditrice qui nous a découvert la semaine passée dans le dernier épisode à +90.7. C'est chez Diac Moncton, ça. C'est le grand Moncton.
C'est chez nous.
Bon, alors, elle s'appelle Julie Savoie, puis elle a eu bien du plaisir à découvrir cette émission-là, puis elle dit, elle va être là, ou enfin, elle va essayer d'être là à chaque semaine. Ben, merci. Ça, c'est le genre d'émission que quand on commence une fois, c'est un peu comme de la drogue. Tu sais, on vient addict, c'est un petit peu ça. Sébastien, aujourd'hui, moi, je vais parler de entre autres choses, des champignons. L'automne, pour les mycologues, les gens qui aiment les champignons, c'est une grosse saison d'à peu près la mi-septembre jusqu'au mois d'octobre. Alors, on va parler de ça, mais attention, si vous connaissez pas les champignons, lancez-vous pas dans la cueillette de champignons de façon immodérée, on va dire.
C'est un petit peu dangereux si on connaît pas ça. Faut s'informer.
Ouais. Toi, tu vas parler de quoi aujourd'hui?
Hey, les os. Le pluriel de os, un os des os.
Oui,
une ressource insoupçonnée parce que qu'on a fait dans l'histoire à partir des os, c'est incroyable. Je suis tombé sur un article récemment qui était assez complet par rapport à ça et puis j'ai voulu vous en témoigner.
OK, tu vas nous parler de ça dans quelques secondes pour ouvrir l'émission.
Absolument.
D'abord, il faut vous dire que dans notre deuxième bloc, les entrevues sont de retour. On n'en aura pas forcément à chaque émission, mais on va essayer, autant que faire se peut, d'avoir des invités. Et cette semaine, dans le deuxième bloc de l'émission, tout à l'heure, le deuxième quart d'heure, on va parler avec Marc Poirier. Il est journaliste, chroniqueur historique, et il va nous parler d'un texte qu'il a signé dans Franco-Presse et qu'on a pu lire dans certains hebdos à travers le pays. Ça a pour titre « La longue route vers la transcanadienne ». Alors, on va découvrir avec lui un petit peu l'histoire de la route transcanadienne, parce qu'un sujet qui est plus pan-canadien que celui-là, hein, tu sais, c'est difficile de faire mieux, mais c'est sûr que ça va rejoindre tout le monde. Autre sujet dont on va parler un petit peu plus tard, Sébastien, dans ton cas?
Les robots dans nos cuisines.
Ah ouais, hein? Ah
attention, ouais, hein? Ça s'en vient de plus en plus fréquent, et puis il y a beaucoup de restaurants qui les ont déjà, certaines entreprises, mais les robots dans les cuisines, ça peut changer la culture d'une société, ça.
On commence avec ton sujet, Sébastien, les os à travers l'histoire.
Incroyable, encore une fois. Ben oui, l'article dont je te parlais, que j'ai lu, c'était dans Stars Insider. Ils ont sorti beaucoup d'informations que je vais te dire que j'ai pris là-dedans. C'est vraiment intéressant parce qu'avec des os, là, ils ont fait dans l'histoire des médicaments, des outils agricoles, des boutons de chemise, de la gélatine, de la colle. Des traditions ont été faites aussi en utilisant des os. Des instruments de musique, des armes, des habitations, de la porcelaine qui est faite en cendre d'os. Des sites religieux, de la divination, de la nourriture, de l'engrais, conservation des aliments. Ils en ont fait des affaires avec des os. Et puis,
c'est une matière première qui est à toute fin utile, renouvelable dans une certaine mesure. c'est presque inépuisable. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des humains, puis tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des animaux qui vont peupler la surface de la Terre, il va y avoir de la matière première.
C'est clair. Et puis, fait notable, des os, ça stocke des minéraux importants et ça produit des globules rouges et des globules blancs. Ça pourrait mettre une piste d'idées sur tout ce qu'on a pu faire avec ça. Mais pour commencer, là, le logement. Des habitations, parce que les os, les défenses de mammouths laineux, ça a été utilisé, ça, au paléolithique supérieur en Europe pour construire des abris. Le paléolithique supérieur, c'est l'époque qui est 45 000 ans en arrière jusqu'à 12 000 ans en arrière, si on regarde grosso modo, avant aujourd'hui. Puis en Amérique du Sud, les premiers hommes qui utilisaient plutôt, eux, des carapaces de glyptodons. Je sais pas si tu sais ce que c'est un tatou. L'animal, le tatou.
Oui. Mais il y a toute la carapace est recouverte d'os, là, dans une certaine mesure. C'est un peu ça.
Oui, c'est une carapace, un peu comme une carapace de tortue. Les tatous, des glyptodons, c'est comme des gros tatous massifs.
OK.
Des énormes tatous, puis il y avait ça dans le temps, il y a très, très longtemps. C'est un symbole, d'ailleurs, le tatou d'Amérique du Nord, en particulier du Texas, où il est l'emblème officiel du Texas.
Ah, vraiment, le tatou est l'emblème animal du Texas.
C'est ça. Puis, jusqu'à la dernière glaciation, l'Amérique du Sud avait beaucoup de une mégafaune qu'on appelle, tellement qu'il y avait des animaux, des choses. Il y avait une créature qui s'appelait le Megatherium, qui est un paresseux, comme grosso modo, mais de la taille d'un éléphant.
OK, ouais, ça s'accroche à des branches, mais attention, l'arbre a besoin d'être fort, là, genre.
C'est ça. Et puis, ben, il y avait différentes espèces de glyptodons qui paissaient tranquillement dans cette époque-là, jusqu'à la dernière glaciation, il y a entre 10 000 et 12 000 ans d'ici là. Okay. Alors, oui, on faisait avec des carapaces, surtout de ça, des habitations.
Je pensais qu'on se servait des os, par exemple, des membres de ces animaux-là pour faire des piquets de tente. C'est ça. Je me disais, quand ils doivent se servir de ça, ils font des piquets de tente, puis ils accrochent une toile, quelque chose genre. Mais c'est pas ça. Là, c'est vraiment les os servaient à proprement parler comme une espèce de protection contre les intempéries. C'est un peu ça.
Ben oui, des gros tatous géants. Puis ça, on utilisait les carapaces pour se faire des murs. Puis...
Surprenant.
Eh oui, puis là, des fois, ça prend de la colle. Et savais-tu qu'il y a de la colle qui a été faite avec des os, avec de la poudre des os des animaux? On dissolvait tout simplement ça dans de l'eau. La solution ensuite était évaporée et on séchait ça. On obtenait une gelée dure, puis traditionnellement, on l'utilisait dans le travail du bois et c'était populaire pour les fabricants de meubles au 19e siècle aussi. Okay. Et ça a connu un regain d'intérêt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, de la colle faite directement avec des os.
Eh ben.
Oui. Et quand je te parlais de conservation des aliments, là aussi, on retourne dans le temps loin. Il y a 400 000 ans, les hommes qui vivaient dans la grotte de Kézem en Israël utilisaient des os comme méthode de conservation des aliments. Parce qu'en 2019, il y a des chercheurs de l'Université de Tel Aviv là-bas qui ont découvert qu'ils enveloppaient des fragments d'os de cerf avec de la peau pour conserver la moelle. Et puis là, ça prouve que les premiers hommes avaient des méthodes assez sophistiquées, en fait, là, de conservation des aliments. Ils se contentaient pas de seulement ce qui était disponible à ce moment-là. Ils étaient capables de conserver des choses longtemps. Il y avait des trucs incroyables. C'est grâce aux os.
OK. Il n'y avait pas encore de glacière. Déjà, il était en mesure de conserver de la viande à toute fin utile. C'est un petit peu ça que tu es en train de nous dire.
Ben quand même. Puis moi, ça m'impressionne. Il y a 400 000 ans, là.
Ouais.
Et puis, ben des médicaments, là, en Chine, il y avait ce qu'on appelait des os de dragon qui étaient utilisés pour fabriquer des médicaments. Puis les dragons, ben c'était pas des vrais dragons, tu vas dire, mais des fossiles de dinosaures.
Ah, OK.
Pour vrai, en Chine, ben ça, c'est malheureux qu'ils aient gaspillé des fossiles, en fait. Ils ont fait disparaître parce qu'ils ont fait des médicaments avec. Mais des os riches en calcium qui étaient bouillis avec d'autres ingrédients. Okay. On donnait ça aux enfants pour traiter les vertiges puis les crampes dans les jambes, en Chine. Puis d'autres fois, on les broyait, on les transformait en une pâte qu'on appliquait directement sur les fractures des blessures. Et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fossiles de dinosaures qui ont été détruits, c'est dommage. Et l'identification des zones où ces os de dragons ont été déterrés a quand même permis de récupérer des nouveaux fossiles. Donc, bon, il y en a qui ont été perdus, mais ça nous a permis d'en découvrir plein d'autres.
Alors, mais on savait de toute façon qu'en Chine, je veux dire, c'est un endroit où la médecine ancestrale, si on veut, je ne sais pas si je peux dire ça de cette façon-là, mais les techniques médicinales qui ont recours à des choses qui sortent un peu de nos connaissances à nous, les Occidentaux, je ne sais pas si tu sais où je m'en vais avec ça.
Ouais,
ils en ont expérimenté pas mal des affaires. Donc, je suis plus ou moins étonné de la part des Chinois qu'ils aient été dans cette direction-là, là, avec des affaires d'os de dinosaures et tout ça, là.
Ouais, puis tu seras pas étonné non plus que les vertus médicinales de ça reste à prouver. c'est pas clair que ça a fonctionné pour les Chinois.
Si on pourrait énoncer d'autres remèdes thérapeutiques auxquels ils ont recours, là, avec des affaires de tigre, puis de rhinocéros, puis d'affaires comme ça, qui sont encore aujourd'hui, disons, drôlement discutables, mais ça, c'est un autre débat.
Ben oui. On peut continuer avec d'autres applications des os. Ben, en fait, les boutons de chemise, c'était des objets fabriqués avec des os... En tout cas, dans ceux datant de 2000 ans avant notre ère, on en a découvert beaucoup sur des sites archéologiques, des tibias de bovins qui étaient souvent utilisés pour leur solidité, durabilité. Alors, on faisait des petits boutons.
OK.
On a fait beaucoup d'instruments de musique avec des os aussi, Simon. Des fragments de flûte ancienne ont été découverts sur des sites en Allemagne. La célèbre flûte de Hohlfels date de 4000 ans. C'était faite en os. En France, il y a des flûtes anciennes fabriquées à partir d'os d'ailes de cygne qui date de 30 000 ans.
Mais pense-y, là, faire une flûte avec un os. Il n'y avait pas de perceuse à colonne là, à l'époque. Là. Tu ne pouvais pas arriver et dire « je prends mon os ». Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu ne pouvais pas arriver et dire « descends perceuse à colonne, creuse un trou là-dedans puis fais une flûte ». Là, ça demandait quand même une certaine dextérité. Il y a quelqu'un qui a travaillé une couple d'heures, peut-être même une couple de semaines pour être capable de faire une flûte avec un os. C'est assez impressionnant quand on y pense.
Oui, puis c'est à se demander comment ils ont fait justement les petits trous. Ben, sûrement en grattant longtemps.
En grattant longtemps, oui, tu dis, oui. Okay,
ouais. Puis la mâchoire, qui est un instrument de percussion qui est utilisé dans certains pays d'Amérique latine, c'est fabriqué à partir d'un mâchoire d'un équidé, comme par exemple un âne ou un cheval. Puis à partir de la mâchoire, on se faisait des percussions en Amérique latine, puis des sillets de guitare. Je sais pas si tu sais c'est quoi le petit sillet de guitare en os, ce qui est au bout, là, où les cordes se font chacun un petit trou, là, une petite fente pour être au bout du manche. Okay. Et ça, c'est encore utilisé aujourd'hui dans des guitares acoustiques. C'est fait en os. Il y en a qui sont faits en os, il y en a qui sont faits en plastique. Mais l'utilisation de l'os au lieu du plastique, ça influence la sonorité de la guitare et sa capacité à rester accordée. C'est mieux de les faire en os qu'en plastique, ce qui est quand même intéressant. On fait ça encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'armes, ça bien sûr, tu peux te l'imaginer, faites avec des os. Des armes depuis des millénaires, on en fait. Des poignards fabriqués à partir des morceaux d'os, c'est un exemple. Les Clovis, qui est un peuple d'Amérique du Nord préhistorique, sont connus pour avoir fabriqué des petits projectiles pointus.
Eh bien, ma foi du ciel, on en a fait des affaires avec les os au fil de l'histoire. Moi, je suis vraiment impressionné. Tu sais, a priori, quand on pense aux os, on voit pas grands usages avec ça. Peut-être faire de la soupe avec des os à moelle. Peut-être les broyer, faire de la poudre, tu sais, de la poudre d'os, par exemple, qu'on met dans nos jardins, dans nos plates-bandes, les affaires comme celle-là. Mais quand on y songe au fil de l'histoire, on s'aperçoit que finalement, il y a eu beaucoup plus d'utilisation avec les os que ce qu'on imagine a priori. Hein. On arrive presque à la fin de ce premier bloc. Ça a l'air de rien. Ben oui, absolument. Hey. Alors, on a consacré ce bloc-là aux os. Pas aux os dans le sens de E-A-U-X, mais aux os dans le sens de le pluriel d'un os. Et puis, dans un instant, on va aller faire un tour sur la route transcanadienne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà allumé, ça, Sébastien, de partir sur un road trip sur la transcanadienne?
Plusieurs fois. Puis, j'ai fait le Canada, la grandeur du Canada, au moins 4 fois en voiture.
OK.
Ouais, aller-retour.
OK.
Donc, oui, j'ai fait d'un océan à l'autre par la transcanadienne.
Ben alors, le prochain sujet devrait t'intéresser et intéresser nos auditeurs, nos auditrices également, puisque dans un tout petit instant, on va parler avec le journaliste, chroniqueur historique Marc Poirier, qui a signé un texte qui s'intitule « La longue route vers la transcanadienne ». Il va nous parler de ça au retour de la pause à « Peu contenir des infos ». Restez branchés.
Peut contenir des infos.
On a tous, au moins une fois dans sa vie, rêvé de partir, je pense en tout cas, sur une espèce de trip, hein, un road trip. Je ne sais pas si c'est ton cas, Sébastien.
Oh oui, comme je te disais, là, je suis allé faire le tour du Canada en voiture. Je l'avais fait la première fois en avion, mais en voiture, c'est quelque chose.
Ouais, puis il y a des routes mythiques à travers le monde qu'on aimerait parcourir davantage que d'autres. Je peux penser, par exemple, aux États-Unis, la fameuse route 66. La fameuse 66. Mais puis il y a la panaméricaine également qui part du nord jusqu'au sud. Mais on oublie qu'on a chez nous au Canada l'une des plus longues autoroutes du monde, la transcanadienne.
Hein? Oui.
Tu l'as dit. Et moi, j'ai été attiré au cours des derniers jours par un article qui est paru sur francopresse.ca et qu'on vous invite évidemment à consulter. Ça a été repris depuis dans plusieurs journaux francophones au pays, dont l'Express à Toronto, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, pour ne nommer que ceux-là. Et on a la chance de recevoir en entrevue avec nous Marc Poirier. Il est journaliste et chroniqueur historique. C'est lui qui a écrit cet article qui s'intitule « La longue route vers la transcanadienne ». Marc Poirier est avec nous. Bonjour, Marc.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Marc, la première question moi, qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi écrire un texte à propos de la transcanadienne?
Oui, ben, c'est qu'avec le rétroviseur, on écrit sur toutes sortes de choses. Hein. On essaie de trouver des sujets intéressants, un peu insolites, que peut-être les gens connaissent moins ou peu ou pensent bien connaître. Puis, le rétroviseur, ça fait déjà une couple d'années que ça existe. Là. On voit vraiment dans tous les sens. Là. On parle des Vikings à Terre-Neuve ou encore du Proton ou de Village People, du Croton. Ça va vraiment dans tous les sens. Puis la transcanadienne, en discutant des sujets, c'est venu sur la planche à dessin parce que c'est on cherche aussi parfois d'avoir des sujets qui intéressent tout le Canada. Donc la transcanadienne, c'est tout le Canada. C'est difficile à trouver mieux que ça. Ouais. Mais c'est aussi un de ces grands projets-là qui, avec le chemin de fer ou les voies maritimes, par exemple, dans certaines parties du pays. C'est des projets qui ont d'envergure, là, qui ont uni le pays d'un bout à l'autre.
Mais c'est bien vrai que ça a uni le pays en quelque sorte, et moi j'ai pu en profiter moi-même. Mais pouvez-vous nous dire, M. Poirier, qu'est-ce qui a motivé la construction de cette autoroute-là au Canada? Comment est né le projet?
On a commencé à en parler au début du 20e siècle là, avec l'arrivée, la popularité des autos. Il y avait des petits bouts d'autoroute ou de route qui se construisaient évidemment un peu partout, mais c'était impossible de parcourir le Canada d'un bout à l'autre, là, d'un océan à l'autre, sur une seule route et même parce qu'il y avait certains endroits dans les années 10, dans les années 20, 30, qui n'avaient pas de route. Et c'est assez intéressant, on parle de road trip. Ben justement, dans les années 10, il y a eu un road trip. En fait, c'était un concours de, je me rappelle plus qui l'avait lancé, on avait mis au défi de parcourir justement, de traverser le Canada en auto. Et puis il y a un journaliste britannique du nom de Thomas Wilby qui, avec son chauffeur, a relevé le défi. Donc, est parti de Halifax, a pris de l'eau de l'océan Atlantique dans une bouteille, puis a traversé tout le Canada jusqu'à Vancouver, jusqu'à la côte ouest, en 2 mois, si ma mémoire est bonne, oui, 2 mois. Donc, c'était vraiment le premier road trip d'un bout à l'autre du pays. Mais ce qu'on a su seulement quelques mois ou un an plus tard, quand le journaliste Wilby va écrire un livre sur son aventure, on va apprendre qu'ils n'avaient pas pu faire tout le trajet par la route, parce que justement, il y avait des endroits où il n'y avait pas de route, notamment dans le nord-ouest de l'Ontario, où la grosse région boisée. Okay. Dans ces certaines sections de cet endroit-là, l'auto a été mis sur un bateau, un traversier, ou même sur un train. Donc, ça n'aurait pas satisfait les conditions du fameux concours, mais on l'a juste su plus tard.
OK, donc en fait, le road trip s'est transformé à certains égards en boat trip à des bains des places, autrement dit. C'est ça.
Il y a
eu des difficultés, outre le fait là, de ces fameux road trips un peu arrangés avec les gars des vues, si on peut dire, mais il y a eu des difficultés là, rencontrées pendant la construction. Moi, j'ai été très étonné à la lecture de ton article, Marc, parce qu'on s'est dit tantôt qu'on allait se tutoyer. J'ai été très étonné de toutes les difficultés qu'on a rencontrées avant d'aboutir à ce projet qu'on connaît aujourd'hui, ou en fait, cette route transcanadienne telle qu'on la connaît. Ça a été quoi, entre autres, les difficultés pendant le projet?
Ben c'est ça. Il y a eu des temps. Le gouvernement fédéral avait la volonté de faire ça, mais le problème, c'est que les routes, selon la Constitution, c'est de juridiction provinciale. Donc, il fallait l'accord des provinces, de toutes les provinces, finalement, pour se lancer dans ce projet-là ambitieux. Puis juste un mot avant d'aller plus loin. On parlait des motivations. Il y avait aussi le fait que si on voulait traverser le Canada, fallait, dans certains endroits, passer par les États-Unis. Donc, c'était une question un peu de fierté là, canadienne de dire, il nous faut une route qu'on va pouvoir, on va pouvoir traverser sans aller aux États-Unis. Donc, ça devenait un peu embarrassant. Donc, ça, c'était une des grandes motivations. En tout cas, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis tout ça. Donc, ça a pris jusqu'à 1949 pour que finalement, le fédéral se décide, ou en tout cas, convainc les provinces d'aller de l'avant et mettre de l'argent, parce que, bon, ça a pris des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Donc, il y a eu une entente avec les provinces, mais sauf le Québec. Donc, le Québec n'a pas voulu adhérer, un peu comme la Constitution, mais 50 ans plus tôt.
Ouais, c'est ça.
Donc, les 9 provinces ont dit oui. Le Québec a dit non parce que le Québec, c'était le Maurice Duplessis qui était premier ministre à ce moment-là. Et lui, il était pas d'accord que le fédéral allait décider des normes de construction. Donc, il y avait un différent à ce niveau-là. Donc, le Québec ils sont allés de l'avant malgré tout. Puis, c'était plus ou moins important, plus ou moins symbolique, parce qu'il y avait, à ce moment-là, déjà une route qui traversait le Québec. Donc, mais finalement, ça a pris jusqu'en 1961 et le changement de gouvernement avec Jean Lesage, où là, le Québec est finalement embarqué dans tout ça.
Vraiment, le Québec qui fait des fois mouton noir.
On dit plus ça change, plus c'est pareil. Hein?
Exact.
Mais Monsieur Poirier, il y a eu un impact historique, même culturel, du fait que maintenant on a une transcanadienne. Pour toutes les communautés canadiennes, qu'il y a une route qui fait le pays au complet, quel impact que ça a pu avoir?
Ouais, ben ça a été un impact économique. Là, c'est comme je disais, c'est un peu à l'image du train 100 ans plus tôt. Puis c'est devenu encore de plus en plus vrai maintenant parce que les transports de marchandises se fait par camion beaucoup plus qu'avant et donc ça a presque pas remplacé le train, mais c'est une bonne portion des produits qui sont transportés par camion. Donc ça a rendu ça possible. Justement, il y a une petite anecdote que je relate dans l'article, dans la chronique, c'est que le dernier tronçon vraiment à être construit, c'était en Colombie-Britannique, à l'est de la Colombie-Britannique, un endroit qu'on appelle le Col Rogers, et qui était un endroit donc dans les Rocheuses, là, très difficile d'accès et tout ça. Et quand le tronçon a été terminé, un des premiers à le traverser, c'était un marchand de fraises qui venait de Revelstoke, en Colombie-Britannique, et qui voulait amener des fraises fraîches à Calgary. Et pour faire ce trajet-là, auparavant, ça lui aurait pris un jour ou deux. Puis là, maintenant, ça lui prenait seulement quelques heures. Donc, juste, c'est un petit exemple des avantages économiques, mais qui allaient se transformer en des avantages, évidemment, à grande échelle, un peu partout, et qui relie, j'allais dire, toutes les capitales, mais c'est faux. La transcanadienne, il y a deux capitales où la transcanadienne ne passe pas, puis c'est Toronto et Halifax. Ah. Toronto, parce que, bon, c'est au sud, et la transcanadienne passe au nord, là, vers Ottawa, et il y a un autre tronçon plus au nord encore. Puis, en Nouvelle-Écosse, la transcanadienne, comme c'est voué à être coast to coast, donc la transcanadienne s'en va vers le nord d'Halifax et vers le Cap-Breton plutôt, okay, jusqu'à Sydney. Et de là, ben, on prend le traversé pour aller à Terre-Neuve. Et là, il y a un autre tronçon qui traverse Terre-Neuve jusqu'à Saint-Jean.
Ah, lévite Halifax.
Oh, ouais. Ouais, il y a des affaires surprenantes comme ça. Hein?
Mais il y a une autoroute à quatre voies jusqu'à Halifax quand même. Oui, c'est juste que ça ne fait pas partie du réseau de la transcanadienne.
De la transcanadienne. Le temps file. Marc, deux dernières petites questions. Moi, je suis curieux, là, dans votre recherche, en fait, dans ta recherche, qu'est-ce qui t'a particulièrement surpris là, au fil de ta recherche, si tu devais pointer une affaire à propos de la transcanadienne?
Si on revient sur le Col Rogers, qui était très, très, une partie peut-être la plus difficile, c'est qu'il y avait beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige à cet endroit-là et il y a beaucoup d'avalanches. Et pour contrer ça, pour se protéger de ça, donc on a construit ce qu'on appelle des paravalanches, donc une espèce de structure par-dessus la route, l'autoroute, pour que s'il y a de la neige qui tombe, que ça passe par-dessus. Mais on fait plus que ça. On provoque, les forces armées canadiennes provoquent des avalanches préventives avec des canons, ou en tout cas des missiles, mais en tout cas des espèces de...
Des explosifs, là.
Et ça a commencé à ce moment-là, dans les débuts des années 60, parce que cette portion-là était inaugurée au début des années 60, et ça se poursuit jusqu'à maintenant. Donc, on continue à faire ça pour protéger les automobilistes là, et protéger la circulation.
Très bien. Puis en terminant, ben je voudrais que vous nous disiez Marc Poirier, quelqu'un qui lit l'article que vous avez écrit, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il retienne sur la transcanadienne? Quelqu'un qui lit l'article puis qui en apprend pour la première fois?
Ben, que Rome ne s'est pas fait en un jour.
C'est ça, hein, ça a été dur.
Et la transcanadienne non plus.
Mais que c'est quand même, tu sais, c'est assez. C'est comme un peu. Je reviens avec le chemin de fer, tu sais, c'est des. C'est des projets qui, quand tu regardes ça par la suite et en recul, qui dit mais comment on a réussi à faire ça? C'est tellement grandiose, ça prend tellement d'efforts, il y a tellement d'embûches que, tu sais, malgré tout, là, on parvient à réaliser des projets d'importance et d'envergure comme ça.
Fantastique. Quatrième, hein, si je ne me trompe pas, quatrième plus longue autoroute au monde, c'est bien ça, hein?
Quatrième plus longue et la deuxième plus longue autoroute nationale, qu'on dit, après l'Australie.
Wow! Oh. Vous allez en apprendre beaucoup, c'est juré, là, si vous lisez son article, ça s'appelle « La longue route vers la transcanadienne ». Vous allez le trouver sur francopresse.ca, c'est paru encore tout récemment. Vous allez le retrouver également dans des journaux francophones ou des sites web de journaux à travers le pays, l'Express à Toronto, je l'ai dit tantôt, Courrier de la Nouvelle-Écosse et d'autres endroits également. Il s'appelle Marc Poirier, journaliste et chroniqueur, j'allais dire artistique, ça, c'est un art, hein, faire une autoroute comme celle-là. Chroniqueur historique, pardon, Marc Poirier. Merci beaucoup.
Merci, de rien.
Avertissement, avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Très intéressante cette entrevue qu'on a réalisée il y a quelques instants avec M. Marc Poirier qui nous a parlé de la transcanadienne. Ça donne quasiment le goût de partir en auto drette là pour aller faire le pays d'un bout à l'autre. Troisième bloc de l'émission déjà, mine de rien. Vous savez que la saison automnale, c'est la saison des champignons.
Ah oui?
Oui. Au pays, dans plusieurs régions, quoi qu'on peut cueillir des champignons à peu près à n'importe quel moment durant la saison estivale, mais de la mi-septembre environ jusqu'à l'arrivée de la saison froide d'octobre, fin octobre, début novembre, là, la saison des champignons bat son plein dans les boisés et les forêts à travers le pays. C'est, en tout cas, aux yeux des mycologues, le meilleur temps de l'année, parce que il y a des champignons en abondance, la température est quand même pas pire. Alors, mycologues, retenez ça, là, si vous vouliez savoir comment s'appellent les amateurs de champignons, ce sont des mycologues, ils pratiquent la mycologie, mais attention, ne s'improvise évidemment pas mycologue qui veut, il faut savoir bien identifier les champignons. Est-ce que tu es un amateur de champignons, Sébastien?
Ben, j'aime ça, mais je connais pas, attends, moi je suis pas mycologue, et j'ai jamais été à la cueillette moi-même là, de champignons dans la forêt, comme j'ai des amis qui l'ont fait, mais non, je connais pas assez ça, puis j'oserais pas. Okay. Je voudrais pas tomber sur une amanite tumouche ou je sais pas quel champignon là, vénéneux.
Ben, il y a des champignons qui sont absolument délectables dans la forêt. Nous autres, généralement, là, dans le supermarché, on connaît les champignons de Paris, là, puis des affaires comme ça, mais on connaît pas nécessairement tous les champignons qu'on retrouve dans nos forêts. Il y a des champignons qui sont absolument délectables, là, qu'on pense aux morilles, par exemple, qui sont des champignons très prisés pour leur saveur qui est délicate.
Et ça, les morilles, je suis juste très chanceux d'avoir pu en manger souvent. J'allais dans un restaurant à Nigadou, où, quand, dans le temps que j'enseignais l'astronomie dans les école là-bas, là. Puis j'étais hébergé là dans une auberge et le monsieur, c'était un cuisinier français excellent. Il me faisait toujours des morilles avec ma petite fondue au fromage et tout ça. J'ai été chanceux, j'ai goûté à ça, mais c'est des très bons champignons. Ouais. C'est rare et ça vaut cher.
Bon, les chanterelles aussi, ça aussi c'est assez connu. C'est en trouve au Canada. Le goût, c'est légèrement fruité, texture un peu ferme. On connaît les bolets, les pleurotes, mais il y en a d'autres, attention, qui sont au contraire extrêmement vénéneux. Oui. Là, je dis pas venimeux, parce que venimeux, c'est les, hein, on le sait, c'est les animaux
le qui venin.
Sont venimeux. C'est ça, le venin. Alors, les autres, ils sont vénéneux. Et il y a certains d'entre eux qui sont parmi les plus vénéneux au monde et qui sont présents au Canada. C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, Sébastien, si vous êtes pas des amateurs de champignons puis que vous connaissez pas ça, partez pas sur un buzz d'aller ramasser des champignons parce que c'est la saison des champignons puis de ramasser n'importe quoi. Parce que, les intoxications aux champignons, ça peut être, somme toute, assez bénin dans bien des cas. Des douleurs abdominales, on a des crampes, des nausées, des affaires comme ça. Et ça survient généralement entre une quinzaine de minutes et deux heures après la consommation. Donc, on voit que les effets sont assez, somme toute, assez, j'allais dire foudroyants, mais assez rapides. Mais le problème, c'est que ceux qui sont les plus vénéneux, ah ben eux autres, leur intoxication se manifeste plus souvent qu'autrement plusieurs heures après les avoir ingérés, ce qui laisse, en général, pas beaucoup de temps pour agir. Et c'est là qu'il est le problème. C'est là qu'il est le problème. C'est qu'on mange des champignons, on n'en prend pas nécessairement compte. Certains d'entre eux ont même un goût qui est quand même pas repoussant. Tu sais, on les mange, puis on dit « Ah, c'est bon, tout ça. » Puis 5, 6, 7, 8 heures après, ah, là, ça commence.
Hey, mais c'est dommage, parce que la nature, on se dit toujours qu'elle va nous avertir. Hein, quand on goûte quelque chose, si c'est vénéneux, on se dit ça va goûter pas bon, mais là, c'est dangereux.
Il y en a, ouais, il y en a certains qui, a priori, tu sais, on se dit c'est justement, c'est vénéneux, ben, mais c'est pas toujours le cas. Je vous donne, au Canada, on en a quelques-uns. Je vous donnais pas la nomenclature complète de tous les champignons qui sont dangereux au Canada, et je vous donnerai pas non plus la description de ces champignons-là. Je voudrais que vous alliez sur Internet pour les identifier vous-même, plutôt que je vous donne à la radio les caractéristiques de ces champignons-là, puis que vous disiez « Ah, ben lui, il a l'air correct, je vais le cueillir. » Je ne veux pas vous envoyer dans cette traque-là, mais je veux vous dire qu'à titre d'exemple, l'amanite phalloïde, qui est connue vulgairement sous le nom de, écoutez ça, le calice de la mort. Le calice de la mort, c'est l'un des champignons les plus toxiques au monde. C'est probablement l'un des plus mortels et on l'a au Canada. On dit qu'il est à ce point mortel qu'à peu près 90 % des décès liés à l'ingestion de ce champignon lui sont attribuables à chaque année dans le monde. Et à ce jour, on ne lui connaît, ça c'est assez malheureux, on ne lui connaît aucun antidote. L'amanite phalloïde, quand ça traque vers la mort, c'est à toute fin utile, irréversible, vous vous en allez vers là. L'amanite phalloïde contient des toxines qui attaquent, et c'est là le problème, le foie et les reins, qui sont deux organes qui sont particulièrement sensibles aux toxines. Hein, c'est un organe, tu sais, le foie et les reins, c'est des organes qui sont des organes qui filtrent, et à ce sens-là, ben ils sont particulièrement propices justement aux affections ou aux infections quand on bouffe des champignons, et l'ingestion de l'amanite phalloïde peut entraîner la mort en l'absence de traitement assez rapide. Il faut faire des drainages du foie et des reins et tout ça. Et c'est un champignon qui n'est pas originaire du Canada. C'est une espèce invasive. On ne le trouve encore qu'à de très rares endroits chez nous au Canada, dont la Colombie-Britannique. Alors, soyez extrêmement prudents quand vous cueillez des champignons, surtout avec l'amanite phalloïde. Le deuxième, et je vais conclure avec les variétés là, qui sont les plus dangereuses, une autre qui est particulièrement toxique, c'est l'amanite vireuse. C'est un champignon qui est à ce point dangereux qu'on l'a surnommé l'ange de la mort. Absolument. C'est un champignon qui est beaucoup plus répandu que le précédent, un champignon qui se développe particulièrement sous les conifères de l'été jusqu'à la fin de l'automne, et les premiers symptômes apparaissent de 4 à 16 heures après son ingestion. Tu sais, ça prend du temps avant de t'en rendre compte. Alors, nausées, douleurs gastriques violentes, diarrhée, vomissements, et c'est encore beaucoup plus long que ça avant que les symptômes les plus dangereux surviennent. C'est que 5 à 6 jours après avoir ingéré l'amanite vireuse, là, on entre dans un deuxième stade d'intoxication et ça entraîne carrément la destruction du foie, tant et si bien qu'il y a à peu près 60 % des victimes qui ont mangé l'amanite vireuse qui finalement en décèdent.
Alors, il n'y a pas personne qui t'écoute là qui s'en va à cueillette aux champignons, je pense, Simon.
Non, c'est clair. Non, mais en même temps, il y a peut-être des amateurs de champignons parmi nos auditeurs qui disent « Hey, minute là, t'es en train d'ameuter les gens. » Mais moi, les conseils que je vous dis, c'est si vous connaissez pas ça, ne cueillez pas ni ne mangez des champignons sans avoir la certitude quant à leur variété et s'ils peuvent être comestibles ou pas. Meilleur conseil, là, finalement, c'est si vous connaissez pas les champignons sauvages, évitez-les. Référez-vous à un expert. Et une affaire que moi, je vous donne comme conseil, c'est fiez-vous pas juste sur un livre avec des photos. Parce que le problème, c'est que quand vous voyez une photo dans un livre, vous voyez le champignon seulement sous un angle. Vous ne le voyez pas complètement. Mais il y a bien des champignons qu'il faut les revirer, il faut les regarder sous tous les sens pour être sûr que, ah, il est correct. Parce qu'il y a certaines caractéristiques qui font qu'on ne les voit que quand on regarde en dessous. Et certains qui sont extrêmement dangereux ont une apparence, a priori, tout à fait semblable à d'autres champignons comestibles. Et à moins d'en connaître toutes les caractéristiques, c'est bien facile de confondre les champignons. Alors, de grâce, prenez pas de chance. C'est la morale de l'histoire. Oui, bonne saison des champignons, mais soyez prudents.
Hey, je comprends, donc.
Toi, tu nous as commencé l'émission avec les os.
Oui, on parlait d'utilisation des os.
D'armes, d'instruments de musique et tout ça. Puis je suis convaincu qu'il te restait encore des utilisations insoupçonnées des os.
On aurait le temps d'en rajouter quelques-unes?
Ben, on a le temps. On a encore à peu près 4 minutes.
Ah ben, certainement. Des sites religieux. Hein? On revient à où est-ce qu'on était rendu.
Oui.
Partout dans le monde, il y a des sites religieux qui sont couverts d'os, mais c'est des os humains. Hein? Ça, c'est pas comme on parlait tout à l'heure avec des os d'animal. C'est souvent les sites religieux des os humains.
Ben, à Paris, il y a les catacombes de Paris. C'est un ossuaire, là. C'est rempli d'eau, là. On peut aller visiter ça, là, apparemment.
Oui. Ben, moi, j'ai jamais vu. Je suis jamais allé à Paris. Ouais. Ben, est-ce que c'est beau, Paris? Est-ce que tu connais?
Ben, moi, j'ai jamais été, mais j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos. C'est assez hallucinant. Ça m'a quasiment donné le goût d'embarquer dans l'avion et aller voir ça tellement que ça a l'air stupéfiant.
Ah, c'est sûr. J'aimerais bien visiter l'Europe. Ça fait partie des plans. Et hey, puis la nourriture, savais-tu qu'il y a beaucoup, l'alimentation, en fait, depuis très longtemps, on a utilisé des os. Les os en font partie. La moelle osseuse, surtout, hein, en particulier. Très riche en nutriments, ça, la moelle osseuse. Considérée comme un des mets délicats dans beaucoup de traditions culinaires aussi. Puis dans le sous-continent indien, des plats comme le niari, qu'on appelle, ils utilisent des jarrets de bœuf ou d'agneau et de la moelle osseuse. Il y a le bouillon de pot-au-feu qui comporte aussi des os. Il y a l'abgoucht ou le dizi qui est un ragoût iranien qui utilise la moelle osseuse. Alors, en tout cas, dans la nourriture, ça existe beaucoup.
Et hey, on va se le dire, un bon ossobuco, là, ça fait la job. Quand tu reçois du monde à la maison, les ossobuco, OK, c'est bon pour la viande qui est autour de l'os, mais il y a la moelle aussi à l'intérieur de l'os que les gens mangent, là, c'est évident, ouais.
C'est ça. Il paraît que c'est très, très bon pour la santé. Ça a plein de vertus. Et puis, on a fait de l'engrais avec de la poudre d'os aussi, des os d'animaux broyés. C'est très riche en calcium, en phosphore. C'est devenu un engrais populaire au milieu des années 1800, ça. Okay. Et puis, pour dire la bonne aventure, tu as sûrement déjà entendu dire, là, depuis des milliers d'années, on a utilisé des os pour la divination hein, dans plusieurs cultures. Dans la Chine ancienne, des os de tortue, de bœuf, de buffle. On disait qu'on prédisait l'avenir avec ça. Ça fait partie. On l'a sûrement, vous avez vu ça dans des films. Et on dit que c'est des os d'oracle, des os d'oracle dans ce temps-là. Okay. Il y a la scapulomancie, qui est la divination à l'aide d'omoplates, qui était aussi pratiquée dans des cultures en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.
La comment?
De la scapulomancie.
Scapulomancie. Okay, oui, tu monsieur. Sors ça sur une planche de Scrabble, là.
Ouais.
Scapulomancie. Ah oui, puis là, tu sais, la personne en avant de toi dit, qu'est-ce que tu es en train d'inventer? Alors, on te dit scapulomancie.
Okay. Scapulo. Scapulo.
Scapulomancie.
Wow. Et puis, un très intéressant que je voudrais avoir le temps de mentionner, de la porcelaine à la cendre d'os, là.
Ah oui.
Parce que, ben oui, de la composition de la porcelaine, c'est 100% minéral. La porcelaine d'os, elle, contient aussi de la cendre d'os. Et des potiers anglais l'ont développé dans les années 1700. Puis pendant beaucoup d'années, ça a été produit exclusivement au Royaume-Uni. Puis actuellement, dans le monde, la porcelaine à la cendre d'os est fabriquée dans des pays comme l'Inde, le Bangladesh, la Thaïlande et la Chine. Toute leur porcelaine est faite avec des os. C'est très différent que nous ici, hein, la porcelaine n'est pas faite avec
des os. OK, on broie les os, on fait de la poudre, puis on fait avec la poudre, on fabrique de la porcelaine.
Oui, monsieur.
C'est comme ça que ça... Eh bien, wow!
Okay. Quand même, hein?
Quand même
il y a la fameuse gélatine qui est faite à partir des os, on le sait bien. Il y a différentes traditions, des outils agricoles aussi. Parce que, dernière chose que je te mentionne, les Cherokees, qui étaient une tribu qui était connue pour utiliser les omoplates de grands animaux pour fabriquer des pelles. Puis, c'est un peuple autochtone d'Amérique du Nord, en fait, les Cherokees qui habitaient dans l'Est et le Sud-Est des États-Unis. Ils ont été forcés par la suite de se déplacer vers le plateau d'Ozark, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, les ethnologues estiment qu'il existe aujourd'hui entre 5 et 7 millions de personnes qui sont descendants de cette tribu des Cherokees, de ce peuple autochtone. Et en Chine aussi, les pelles étaient fabriquées à partir d'os, de bœuf ou de porc. Alors, des outils agricoles, il y en a eu toutes sortes avec des os. Ouais, ça complète, là.
Surprenant. Je connais certains usages des os. Tu sais, je le disais tantôt dans la cuisine, entre autres choses. Je savais qu'on faisait de la poudre d'os pour mettre dans les plates-bandes, par exemple. J'ai donné des os de sèche à mes perruches pour qu'elles se fassent le bec. Hein, tu sais, t'accroches ça dans la, ou encore on donne un os à son chien et tout ça. Mais quand on parle qu'on est rendu à faire des instruments de musique, de la porcelaine ou encore des armes avec des os, on voit que dans l'histoire, ça a joué un rôle, ma foi, assez important. Hein?
Ouais, puis les armes, on le savait un peu, hein, comme les petites fléchettes pointues. Hey, mais tu me parlais de perruche, juste une petite question comme ça. Oui. Est-ce que ta perruche parle?
J'en ai plus de perruche, mais non, elle parlait pas. J'ai jamais
elle
eu de perruche. Non. Il faisait des sons.
Une perruche qui parle, moi.
Ah oui, c'est vrai?
Oui, monsieur, on leur avait appris des mots. Puis ma petite perruche disait, une qui s'appelait Cachou, qui disait bonjour Cachou, parce que à force de dire. Puis mon oncle avait une perruche qui a appris à dire bravo champion, 1, 2, 3, 4, bravo.
Ah oui, c'était
une perruche, ça apprend.
Ça a des facultés, oui, d'apprentissage.
Un peu comme le perroquet.
Oui, un petit peu. C'est un petit perroquet, hein, dans le fond, une perruche. Hey, on en dit-tu des affaires, hein? On est rendu à la fin de ce troisième bloc. On va s'arrêter pour une courte pause. Si l'émission peut contenir des infos, il nous reste une quinzaine de minutes. Vous restez branchés avec nous autres. On vient avec encore davantage de sujets et davantage de plaisir dans un petit instant. Restez branchés.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos,
abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
On entreprend la dernière ligne droite de Peut contenir des infos. C'est incroyable à quel point ça passe rapidement, Sébastien, trouves-tu?
Trop rapidement, je suis pas habitué à ça. Moi, je parlerai avec toi d'un sujet pendant 4 heures. C'est comme ça depuis la première émission. Puis là, ben, finalement, on condense. Ben, on a plus de sujets, donc plus de fun, plus de questionnements. Puis j'espère que les gens apprécient.
Des fois, même on se prépare des sujets, puis on arrive à la fin de l'émission, dans le dernier bloc, puis on dit, si on n'aura pas le temps d'en parler, fait qu'on va repousser ça la semaine prochaine. Mais c'est jamais ben grave, parce que de toute façon, il y en a tellement à dire. Sébastien, là, tu vas nous parler des robots. Attention, pas les robots là qu'on voit se promener sur le plancher, les Roomba, les affaires comme ça. Ils sont rendus dans les cuisines, les robots.
Ben c'est ça. On est à l'époque de l'intelligence artificielle là, maintenant. Donc, je trouvais que ça valait la peine là, de parler de l'apparition maintenant des robots en cuisine. Est-ce que ça va changer? À quel point ça va changer notre culture? À quel point ça peut changer beaucoup de choses dans la société, cette affaire-là? J'ai lu un article vraiment intéressant, si ça vous intéresse, sur le site de conversation.com. Où on voit que Patrick Lin, qui est un professeur de philosophie à l'Université Polytechnique de Californie, a parlé de plein de choses qui m'ont vraiment titillé, que ça m'a vraiment allumé. Les cuisines robotisées. C'est pas partout. Pour l'instant, on n'en trouve pas partout dans le monde. Là, faut dire, c'est pas encore généralisé. On n'a pas des robots dans toutes les cuisines. Mais c'est pas indispensable. Donc, on peut encore s'en passer. Sauf que ça commence à gagner du terrain, surtout dans les restaurants. Franchement, là, tu regardes partout à travers la planète, les restaurants s'équipent, hein? L'intelligence artificielle, ça sert. Et il va y avoir des conséquences, c'est certain, pour la société, la culture. Alors, automatiser la nourriture, ça ressemble pas à aucune autre automatisation, ça. Parce que la grosse différence, souvent, c'est que la nourriture, elle, est essentielle à la vie.
Ouais.
Souvent, on utilise les robots pour des choses qui sont pas nécessairement essentielles à la vie. Mais là, dans ce cas-là, la façon dont on y accède, la façon dont on prépare la nourriture, la façon dont on la consomme, ben là, ça peut changer fondamentalement une société.
Et là, je t'entends parler de robots dans les cuisines, mais on parlera pas de banals robots culinaires. Là, tu sais, on entend parler depuis des décennies, le fameux robot culinaire. Non, c'est pas ça. Là, c'est beaucoup.
C'est pas un blender. Là.
C'est pas un blender, exactement. Là, ou encore un hachoir. Là, c'est qu'on est 2-3 coches plus loin que ça. Là.
Ben oui, puis là, on pourrait penser même que ce dont je vais vous parler, c'est des visions de science-fiction qu'on aurait eues il y a quelques années tirées de Star Trek ou autre. Ouais. Mais la technologie est bien réelle présentement et mondiale avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a des robots qui font toutes sortes de choses dans les cuisines. Ça retourne des hamburgers, ben, ça fait frire du poulet, ça peut créer des pizzas, hein, ça peut faire des sushis. On prépare des salades, on sert des ramen, on cuit du pain, on mélange des cocktails. Mais l'intelligence artificielle peut inventer des recettes en fonction de la compatibilité moléculaire des ingrédients. Hein, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut dire, OK, ça puis ça ensemble, les molécules, ça va donner un goût exceptionnel. C'est ça. Fait que ça s'en vient assez intense, la cuisine robotisée. Des concepts plus avancés sont en cours, d'ailleurs, d'élaboration. On veut automatiser toute la cuisine pour la haute gastronomie. Et ça s'en vient, là, plus vite qu'on pense. Puis la technologie est généralement coûteuse au départ, c'est sûr. Les premiers à adopter des technologies basées sur l'intelligence artificielle sont les restaurants. Comme je le disais, au fil du temps, les prix devraient baisser suffisamment pour que les gens puissent en avoir à la maison, ben, pour le marché intérieur qu'on appelle.
Moi, ce qui me consterne un petit peu là-dedans, c'est quand tu me parles de haute cuisine et que tu associes ça avec le domaine des robots.
Eh oui.
Non, mais parce que quand il me semble on va manger dans un restaurant, enfin, ma conception de manger dans un restaurant de fine cuisine ou de haute gastronomie, ça a toujours été qu'il y a un chef puis qu'il y a une équipe de sous-chefs alentour de ça qui mettent la main à la pâte, qui travaillent, tu sais, qui vont avec minutie, une petite affaire ici, petite affaire par là, avec un petit soupçon. Puis, tu sais, ce sont des plats qui sont travaillés, qui sont préparés avec amour. J'ai de la misère dans ma tête à concevoir que haute gastronomie rime avec robotisation, mais ça a l'air qu'on est rendu là. Coudonc.
Ben oui, puis ça en est un exemple. Hein, comme tu dis, on veut rentrer au restaurant puis avoir notre chef préféré, puis on a l'impression, mais c'est ça, ça change un peu la vision de la société. Puis juste à penser, quand est arrivé le four micro-ondes, ça a quand même changé quelque chose dans la société parce que c'est devenu possible de préparer un repas rapide pour une seule personne. Ça peut être un avantage, mais c'est devenu aussi un bouleversement social. Hein? Parce que lorsqu'on a des technologies comme ça, les craintes, on peut penser, première crainte, c'est dégrader la nutrition des repas préemballés, par exemple, des récipients plastiques chauffés au micro-ondes. On s'est dit, ça va être plus mauvais pour la santé. Moins évident aussi, ça transforme le fait de manger. Autrefois, c'était un événement culturel, manger. Là.
Oui.
En fait, là, communautaire aussi. Puis là, ça peut devenir juste un acte utilitaire de survie. On met ça au micro-ondes, on mange vite parce qu'il faut aller travailler, mais c'est plus toute la préparation, la famille, l'art de cuisiner. Ça va affecter des millions de personnes. Ça l'a affecté des millions de personnes quand le micro-ondes est apparu. Puis les premières études sur les effets des cuisines, intelligence artificielle, puis les robots cuisiniers, on a identifié trois grands domaines d'avantages et de risques. Alors, okay. Je voudrais te parler des grands avantages de robotiser, oui. Mais des grands risques aussi.
OK.
T'es prêt?
Oui, oui, absolument.
Les avantages, ben, permettre au chef d'être plus créatif, d'éliminer des tâches répétitives, ça c'est sûr, hein? Comme l'épluchage des pommes de terre, on peut faire ça au robot. Hein?
Ben, on s'entend.
Le fait de rester debout à un poste de travail pendant des heures aussi, ça peut être évité. La technologie, donc, peut libérer du temps. Et pour une alimentation personnalisée, l'intelligence artificielle peut s'adapter à des régimes spéciaux. Par exemple, quelqu'un qui a des allergies, on règle ça, on y fait une bouffe ou pour qu'il y ait un goût précis puis qu'on fait sa bouffe exactement comme il veut. Alors, les robots peuvent être très, très bons pour ça. Juste par rapport à ça, des risques pour le bien-être humain, on sait que justement, les traditions à cuisiner, c'est thérapeutique. Ça donne beaucoup de possibilités. Il y a de l'apprentissage, de la gratitude, on a de la créativité. Il y a la communication quand on cuisine comme en famille, par exemple. Croissance, indépendance, confiance en soi, plein de qualités qui peuvent être perdues si personne n'avait besoin de cuisiner. Les relations familiales peuvent être affectées parce que les parents, les enfants, ça cuisine ensemble, ça. Ben normalement, oui. C'est un espace sûr aussi pour discuter, contrairement à lorsqu'on est à une table, des fois, ça peut avoir l'air d'un interrogatoire pendant le souper, mais là, pendant qu'on cuisine, c'est un endroit où il y a beaucoup de confidences qui se font hein, entre les enfants, les parents, des choses comme ça. C'est aussi un laboratoire scientifique de la maison parce que l'enseignement des sciences se fait à travers la cuisine quand on cuisine avec nos enfants.
C'est vrai.
L'alchimie de la cuisine, on enseigne aux enfants ce qui se passe en mélangeant des choses. On apprend un peu de microbiologie, de physique, ouais. De chimie.
Il y a même des notions de il y a même des notions de mathématiques, hein. Tu sais, quand tu ben dis oui. Ben un quart de tasse plus un quart de tasse, alors, oh, es-tu là, c'est une demi-tasse, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ouais, effectivement.
Ben oui, tout ça est perdu un peu si on cuisine plus. Et la résolution de problèmes, hein, comme tu dis aussi, des mathématiques, et pas avoir à cuisiner, ça érode des compétences de ces connaissances-là. L'intelligence artificielle peut favoriser l'expérimentation, la créativité, comme par exemple, ça c'est un avantage, en créant des présentations culinaires élaborées, des recettes originales dans l'esprit d'une culture. Alors des fois, on peut garder quelque chose pour faire plaisir à une culture, mais le problème, le bémol là-dedans aussi, c'est qu'à un moment donné, ça peut homogénéiser un peu les cultures, hein? Comme on l'a vu, comme quand tu regardes les œuvres d'art qui sont faites par l'intelligence artificielle, on dirait que sont un peu toutes pareilles à un moment donné, hein?
Ça perd un peu de son charme, effectivement. Il y a quelque chose dans une création humaine, une œuvre d'art humaine, un dessin, par exemple, qui a quelque chose, tu vois, il y a la touche humaine. Puis la plupart du temps, effectivement, je sais pas si ça va s'améliorer avec le temps, mais quand tu regardes aller les robots qui créent des œuvres d'art, je présume que dans le domaine de la cuisine, ça doit être un peu la même chose. Il semble que des fois, il y a une petite touche qui manque, là. Il y a quelque chose dans le genre.
Oui. Ben une IA, ça peut avoir tendance à stéréotyper. Tu sais,
C'est ça,
puis ça peut aplatir ou simplifier des détails, des distinctions culturelles. Ça pourrait conduire, dans le fond, à un peu avoir des choses homogènes dans les cuisines un peu partout dans le monde. Alors, ça, c'est sûr que ça pourrait être un risque. Faut penser aussi à nos restaurants préférés. Ça me fait penser à ce que tu disais tantôt, ton chef, tu sais, qui cuisine, puis tu veux le voir, notre propre expérience gustative, est-ce qu'elle va être dégradée si on sait que ceux qui cuisinent, c'est pas nos amis, mais c'est plutôt des robots? Ben c'est sûr, c'est pas pareil. Et puis, il y a l'affaire de création d'emplois. Hein, l'espoir que ça suscite, la technologie, c'est de créer plus d'emplois que d'emplois supprimés. Hein, le but ultime. Mais même si on constate un gain net en emploi, ben, il y a beaucoup de travailleurs du secteur de la restauration. C'est un des métiers les plus populaires de toute l'économie dans le monde. Ouais. Qui pourraient se retrouver dans l'incapacité d'avoir les bonnes connaissances pour aller... C'est pas tout le monde qui peut devenir un développeur d'intelligence artificielle. Là.
Non, c'est ça.
Ou technicien robotique ou tout ça. Et puis, d'un point de vue philosophique, la question de savoir si l'intelligence artificielle est capable d'une véritable créativité, ben là, ça reste ouvert, cette question-là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment de la créativité? Hein? On pense pas, c'est rationnel, un robot, là.
Ben, c'est de reprendre des affaires qui ont déjà existé parce que l'apprentissage de l'intelligence artificielle se fait plus souvent qu'autrement, justement, avec des choses, enfin, des matières ou des données qui sont déjà existantes. Puis, dans le fond, elle fait juste remodeler autour de ça. C'est un petit peu ça, l'intelligence artificielle. Tu sais, on dit, tu disais tantôt, elle va être capable d'élaborer des recettes ou elle va être capable de faire des matchs, mais c'est qu'à quelque part, il y a assez déjà que, un risotto, c'est fait avec des grains de riz de tel type et qui s'est faite avec ça, puis elle va virer autour de ça. T'sais, l'intelligence artificielle n'a pas cette faculté d'intelligence à proprement parler que l'être humain possède. Là. C'est ça la patente.
Ben, il y en a qui croient quasiment là, que ça peut devenir plus, c'est plus intelligent, mais c'est vrai que la créativité, moi, je donne ça à l'humain.
Hein, en tout cas, qui vivra verra, ouais, c'est ça.
Ouais. Un autre avantage que je veux mentionner, les robots cuisiniers, ça peut améliorer la sécurité alimentaire, comme par exemple la découpe de précision.
Oui.
Il y a certaines automatisations aussi qui peuvent réduire le gaspillage. Les recettes intelligentes d'intelligence artificielle qui peuvent tirer le meilleur parti des ingrédients, ça, comme je l'avais dit, de la moléculaire. Puis les repas personnalisés en aidant les gens à éviter les allergènes, on l'avait dit, mais éviter l'excès de sel, de sucre aussi. Bon, toutes sortes d'applications qui sont bonnes. Mais la technologie est encore vraiment émergente pour l'instant. C'est difficile de savoir si les avantages vont se concrétiser. Les maladies d'origine alimentaire sont une inconnue. L'intelligence artificielle aussi, puis les robots, est-ce qu'ils vont être capables de sentir, goûter, détecter la fraîcheur d'un ingrédient? Ben peut-être pas.
C'est ça.
La sécurité physique, c'est un autre problème. Il faudrait pas qu'un robot cuisine, coupe ou brûle ou écrase accidentellement quelqu'un. Puis, des régimes juridiques ont du mal présentement à déterminer la responsabilité des véhicules autonomes. Si on regarde pour les véhicules, alors imagine pour la cuisine.
Ah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a eu un empoisonnement alimentaire, à titre d'exemple. Est-ce que c'est le chef qui était là dans la cuisine puis qui supervisait, ou c'est le robot qui a préparé les aliments puis qui les a pas suffisamment fait cuire?
Exact. On pourrait mettre ça à la faute du robot. Puis imagine du piratage informatique. On connaît le piratage informatique, mais imagine du piratage sur des affaires de cuisine. Et là, ça peut devenir compliqué, là.
Exact.
Et puis les technologies alimentaires, ça contribue donc à façonner la société. La cuisine occupe une belle place dans les cultures. Alors, il faudrait peut-être réfléchir pour optimiser les avantages, réduire les risques, là, mais ça s'en vient dans nos cuisines, les robots, partout.
Ben, en tout cas, on verra ça. On va voir ces technologies émerger. Actuellement, c'est que dans la restauration à toute fin utile, mais qui sait, peut-être qu'un jour, on va avoir chez soi à la maison un robot qui va tailler les carottes et puis qui va préparer les patates pendant que nous autres, on va être en train de regarder la télévision. Tu sais, peut-être qu'on s'en va
vers ça. Ça s'en vient plus vite qu'on pense.
Alors, ça conclut pour cette émission de Peu contenir les infos de cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de nous retrouver sur la page Facebook de Peu contenir des infos. Vous pouvez nous écrire également pour nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos questions, comme Julie l'a fait, Julie Savoie, auditrice de Plus 90.7. Et puis, vous nous écrivez à pcdi@radiorfa.com. Et Sébastien, tu sais ce que je vais faire? Je vais te saluer puis je vais te remercier, mon cher ami, d'avoir été là.
Ben, je te remercie toi aussi, non seulement de m'avoir invité à co-animer l'émission, puis d'avoir parlé avec moi encore pendant une belle heure. J'ai beaucoup apprécié. Et on remercie aussi notre invité aujourd'hui.
Oui, merci. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Salut.